L'apéro spécial débrief du game 2.
Ah, par contre, je t'avais pas vu. J'ai manqué d'attention. Ça va, Bastien?
Au secours.
Désolé. Pff, elle fait mal, hein.
Ah! J'ai envie de mourir en mondiovision. Je suis mais abattu.
Je suis tout sauf fan des Spurs, mais alors celle-là, même moi, j'ai eu un petit peu mal au cœur. J'ai réussi à pas me faire spoiler en le regardant en réveil. Allez, 2 dernières minutes. On va reparler, mais
On va en reparler.
force à vous, la fanbase des Spurs.
Un grand week-end qui attend les fans des Knicks, un week-end de détresse qui attend les fans des Spurs. On espère que vous allez bien. Alex, pour la 4e fois en 13 ans, a décidé de ne pas faire une vidéo.
Il n'a pas honte.
Non, il est au repos. Et pendant ce temps-là, nous avons ce cher Robin qui step up, comme j'ai envie de dire, comme Landry Shamet en sortie de banc.
On va reparler de lui, mais incroyable. Il y a 9 mois, il prenait des photos à la finale de l'US Open, il n'avait pas de contrat. Non, je me permets.
D'ailleurs, on a vu cette espèce de Kawhi Leonard à Roland avec Gotaga devant
Ouais.
là. Qu'est-ce que c'est que ce montage?
Il y a eu un truc exceptionnel qui dit parce que la 2e demi-finale, il y a un joueur qui a fait forfait et du coup, il n'y a pas eu de match. Ils ont dit Kawhi qui se pointe au basket et il y a un joueur
Il y
qui
a un joueur
décide
qui
de
fait
ne pas
forfait.
jouer.
Exceptionnel. Vous êtes bien sur l'apéro spécial débrief de ce game 2. Comme après chaque match des finales, on doit débriefer. On avait parlé du game 1, Bibi avec Alex. On est obligé de revenir sur ce match 2, sur tout. On va faire comme d'hab, on va faire la chronologie, on va revenir sur tous les éléments. On va prendre une grande inspiration et on va essayer de respirer tranquille pour aborder le déplacement à New York à 2-0. Match lundi soir.
Il y a déjà pas mal d'ambiance dans les rues, hein. Ceux qui ont vu les vidéos là
Ah
en post en post-victoire,
ouais, bien sûr. Non, non,
exceptionnel.
non. Ouais, tout à fait. New York est en ébullition totale parce que ça y est, pour ceux qui peut-être n'ont pas envie de se faire spoiler, eh ben, sachez que je vous spoil. Il y a 2-0 pour les Knicks. Deux premiers matchs à l'extérieur, deux victoires. Ces Knicks n'ont toujours pas perdu, Robin,
43 jours, je crois.
depuis fin avril, depuis 43 jours.
43 jours, 13 victoires de suite.
Oui, c'est
12,
ça.
13, ouais, 13. C'est la deuxième meilleure série de tous les temps, derrière les Warriors de 2016-2017.
Qui s'en étaient plutôt bien sortis, je crois, les Warriors de 2007. Hein.
Je crois qu'il y avait des bons joueurs dans l'équipe. Je crois
Ouais,
que
ils ont fini avec une remontada ou le titre?
une petite bague au bout des doigts, hein.
Ouais, c'est
4-0, hein,
ça.
bien, bien sec.
Ouais, c'est ça.
4-0 ou 4-1, c'est
Bon,
2017-2018.
4-0, c'est
4-0, ouais.
pour moi, c'est JR. C'est
Ouais.
JR ou c'est 2018? Oh, c'est peut-être 4-1. Non, c'est 2017, c'est 4-1.
Et je confonds les deux finales un petit peu.
Parce que 2018, c'est le 4-0 avec JR Smith au Game 1, mais on reparlera de JR Smith dans quelques minutes.
Oui, d'une autre manière. Hein.
Ouais,
Mais c'est
mais
vrai
on
qu'il a,
est.
il a sa patte sur ce game 2.
Mais ouais, 13 victoires de suite, ces Knicks sont sur un run all time, quoi.
Et puis dans des scénarios tellement différents, à chaque fois, il y a de la domination, il y a des gros matchs de Brunson, il y a des fois où c'est les soldats à côté qui step up. Ils trouvent toujours un moyen de gagner et c'est un petit peu ce qu'on dit des équipes championnes. On n'en est pas là, mais ça commence à se rapprocher un petit peu.
Ouais.
Énorme match de pas mal de joueurs. Enfin, parce que Brunson, on en parlait, a
Oui.
été bien défendu. Je sais pas si on se lance là-dessus
Ben, si,
directement.
on va pouvoir se lancer. C'est vrai que Brunson a été vachement indéfendu, mais au global, c'est vrai que moi, je voulais commencer par une phrase qu'on s'est dit tous les deux quand tu es arrivé tout de suite au studio. Je pense
Avant
que
ou
c'est
après le câlin que je t'ai fait?
juste après le câlin, je te remercie, parce que je remets en effet les points sur les i. Robin a ouvert la porte, m'a vu, et on s'est même pas dit un mot. Il m'a juste fait un hug parce qu'il sait la détresse dans laquelle je suis. Je pense que c'est important, avant de rentrer dans tout le contexte de la rencontre, etc., de commencer tout de suite par un truc sur lequel on s'est aligné tous les deux. Il y a 2-0 et il y a clairement 2-0. La meilleure équipe de cette série mène 2-0, mais clairement. Et d'ailleurs, sur ce game 2, l'écart devrait être et pourrait être bien plus grand pour Enix.
Il y a plein d'éléments dont on va reparler au fur et à mesure de ces débriefs. Mais oui, clairement, il n'y a pas un monde. Enfin, si quelqu'un connaît pas le basket et n'a aucune attache sur ces deux équipes, il regarde le match. À la fin du match, il dit que les Knicks méritent de l'emporter. Et pas que d'un point. Franchement, les Knicks ont été au-dessus. Il y a des joueurs exceptionnels. On va parler de Karl-Anthony Towns, de Michael Bridges.
Ouais,
Ils ont
complètement.
été meilleurs de A à Z sur les deux matchs. Enfin, de A à Z. À partir des deuxièmes quart-temps plutôt à chaque
Ouais,
fois.
tout à fait. C'est vrai que
Mais
c'est marrant que tu dis ça parce que sur la physionomie, on retrouve notamment, et on va pouvoir en parler tout de suite de cette entame de match, puisque je vous mets juste le score. Hein. Ceux qui se disent bah, c'est génial, on va à New York à 1-1, non pas du tout, je le répète, il y a 2-0 pour Enix, victoire 105-104. On va revenir sur tous les éléments, les 2 dernières minutes du match, toute la physionomie, mais c'est vrai que dans l'entame, on a d'Enix qui avait démarré en menant 1-0 dans la rencontre et on avait eu beaucoup d'éclats. Wemby qui disait je vais me rattraper en premier. Les extérieurs des Spurs qui disaient on pense qu'on peut encore mieux faire et qu'on peut mieux jouer. Et en fait, sur le premier quart, il y a parole et il y a acte. Le premier quart des Spurs, il est plutôt. Tu peux être optimiste si t'es fan de San Antonio.
J'ai envie de dire que les axes, c'est surtout défensif parce que. Il y a une intensité de dingue dans le premier quart temps qui vont pas maintenir tout le match malheureusement. Ouais. On peut parler de la fatigue, je sais pas, j'ai pas envie de le dire. De toute façon, c'est dur de maintenir une telle intensité sur 48 minutes, on le sait. Mais c'est vrai qu'il y a des prises à deux magnifiques sur Brunson qui provoquent déjà des pertes de balles. De l'autre côté, il y a De'Aaron Fox qui a été beaucoup critiqué après le match 1, qui commence très fort.
Ouais.
Tu parlais de
bon match hein, de Fox hein,
ouais.
En soi.
Ouais, ouais, clairement. Tu parlais de la réponse de Wemby. Elle met du temps à venir, on en reparlera. Mais ouais. Surtout pendant 5 minutes, il touche pas le ballon. Il y a une remise. Un peu de volet, mais à part ça, pendant les 5 minutes, il touche pas le ballon avant un premier dunk, donc ça passe pas par lui l'attaque. Énorme Devin Vassell. La première mi-temps de Devin Vassell, c'est le meilleur joueur des Spurs en première mi-temps pour moi.
En tout cas, il fait partie où il est très gros, comme Champagny l'avait été sur le Game 1 avec ses bombinettes. Ouais, tout à fait.
D'ailleurs, Champagny qui a de l'adresse aussi dans le premier quart-temps. Donc tout ça s'imbrique. Je crois qu'il tourne à 50% à 3 points sur le premier quart-temps.
Ouais.
Les Spurs, donc ça s'envole un petit peu et ça prend jusqu'à 12 points d'avance.
Ouais, c'est ça. Tu finis le premier quart, tu mènes 34 à 25.
Okay.
Et donc. Les Spurs se mettent dans des conditions, comme tu dis, où défensivement on se dit, vas-y donc, quand même, tout va bien. On revoit même des éléments du Game 1 qui reviennent, comme Josh Hart qui reprend très vite deux fautes,
ouais.
Qui va avoir des soucis de fautes, parce qu'on sait que Josh Hart avait été énorme en deuxième mi-temps du Game 1.
Tous les rebonds.
Tous les rebonds, absolument. On a en effet les Spurs qui démarrent très bien, et comme on le voit, c'est vrai qu'on n'est pas forcément sur le début de match, sur. Une ultra domination de Victor, comme on avait pu le voir dans des matchs précédents où en fait lorsqu'on était en lendemain de défaite ou de difficulté, il disait je vais me rattraper, et tu sais, on l'a vu que ce soit contre Portland ou contre Minnesota, boum, c'est t'avais un carton, un premier carton à 18 points ou à 15 points. Là c'est pas trop ça, c'est plus l'ensemble des Spurs avec Fox comme tu le dis et Vassell notamment qui commence à mettre de l'impact, et même Champagne dont tu parlais, qui est un des rares qui attaque sur Brunson en dribblant.
C'est ça, ouais, il va même chercher des lancers.
Ouais.
Et c'est ça, tous les soldats des Spurs qui se mettent en route beaucoup plus fort que ceux des Knicks. Il faut dire que de l'autre côté, celui qui commence le mieux son match, c'est Towns, qui directement empêche Victor de rentrer dans la raquette, ce qu'on va voir pendant la plus grande partie du match. On va en reparler. Et donc, c'est une très grande explication de pourquoi Victor Wembanyama ne rentre pas à 100% dans son match. Mais on l'a vu plein de fois cette saison chez les Spurs que d'autres joueurs étaient capables de prendre le relais. Je crois que Fox met 12 points dans le premier quart-temps. Ou
10 ou 12 points, ouais, c'est 12. Ça.
Ils sont plus agressifs, comme on l'a dit en défense. Ils sont plus intenses en attaque. Les positions de tir sont meilleures. Il y a beaucoup de tirs forcés de Brunson. Il y a beaucoup de... Les tirs au tout début ne rentrent pas forcément chez les Knicks. Ça va changer.
Ouais.
Très, très grosse entame des seconds couteaux des Spurs.
C'est ça. Et au milieu de tout ça, il y a notamment une stratégie qui se met en place. Alors que c'est assez rare de voir ça, en tout cas dans un match de finale NBA en quart-temps 1. À Mitchell Robinson. C'est-à-dire qu'on y vient quand même. Non, mais je vois, ouais, que ça te fait marrer. Mais c'est, ouais, vrai que stratégie nouvelle côté Spurs notamment, c'est que Mitchell Robinson rentre sur le terrain, mm-hmm, et les Spurs décident de faire volontairement faute sur lui jusqu'à, je rappelle les règles, hein, c'est jusqu'à aux deux dernières minutes de la fin d'un carton que tu peux faire ça. Et ça essaye notamment de faire ça pour que, un, tu empêches le rythme des Knicks de se mettre en place en attaque. Et de deux, je crois que c'est Jared Weiss de The Athletic qui le tweetait, sur le temps effectif dans le match, Victor Wembanyama est sur le banc 3 minutes,
okay,
pendant ce hack, mais dans le temps réel de la vie, il se repose 20 minutes. Parce que tu enchaînes les temps morts, les situations lancées, etc. Donc par rapport au hack, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais c'est vrai qu'il y a eu tentative, en tout cas du côté de San Antonio, sur les minutes sans Wemby, De faire durer un petit peu le repos de Victor.
Ça, et puis c'est une nouveauté côté Spurs, mais c'est une tactique qui a été utilisée d'abord par les Wolves, en demi-finale de Cons.
Et les Sixers.
Les Sixers ont commencé très rapidement, dès le premier match. Oui,
tout à fait.
Non, c'est ma faute.
Ah ouais.
Les Sixers, et ça avait très bien marché, encore un petit peu en finale de conférence, et là, bon, il fait 3 sur 6, c'est au-dessus de ses moyennes.
Oui, il y a un 2 sur 2 qui tombe à un moment.
Mais comme de l'autre côté ça rentre, c'est vrai que je l'avais noté pendant les minutes où Victor n'est pas là pendant le premier quart-temps, l'écart pour les Spurs s'accroît.
Ce qui est un excellent signe.
Ce qui arrive assez rarement. Et c'est notamment grâce à cette stratégie, parce que justement les minutes au début de Cornette collent relativement à celles de Mitchell Robinson. Il y a Carter Bryan qui se charge de rentrer et de faire les fautes.
Oui.
Et oui, ça fonctionne et l'écart s'accroît. Et en plus, bah, on l'a dit déjà, Mitchell Robinson en temps normal et lancer franc, c'est dur. Là en plus, la main avec laquelle il doit dribbler, c'est un frigo américain.
Tout à fait.
Donc c'est plus compliqué forcément.
Ouais, complètement. Au milieu de tout ça, On a certes du hack, on a les Spurs qui démarrent bien, mais dans la façon dont ils approchent le match, et je pense que beaucoup de gens ont été marqués par ça, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu vous en direct, mais évidemment ça se voit à ma gueule, j'étais devant, et il est dispo en replay partout. Autant le Game 1 était hyper intense et physique, autant le niveau de physique du Game 2, Luke Kornet envoie Jalen Brunson au sol, sur un hard show derrière un écran, on a beaucoup de joueurs qui jouent des coudes. Le trio arbitral dont on va reparler démarre le match en disant
jouer
SmackDown, on y va, allez-y, mais ça va jouer, ouais. Il laisse beaucoup jouer.
Ouais, bah c'est un plaisir, on le dit beaucoup. Après, il y a ceux qui sont heureux ou non de l'arbitrage depuis le début de ces playoffs sur les réseaux sociaux. Après, on reparlera de l'arbitrage heureux, spécifiquement pour ce match. Ouais, non, en fait, il n'y en a pas beaucoup, autant pour moi. Mais ce qui est sûr, c'est que bah, les fans de la NBA nostalgique des années 90, oui, bon, bah là vous êtes servis, quoi. Ça s'envoie. Y a pas
ou 2000, hein.
Ouais, ou 2000, bien sûr.
Ou 2000, très 2000.
Non, il n'y a pas une personne qui regarde ce match et peut se dire ils sont pas à fond. Mais
ouais, c'est ça, où je voulais te lancer. C'est qu'en fait, c'est aussi agréable quand on a des séries comme ça décisives d'avoir quand même le sentiment que les deux franchises se donnent à fond et que, au lieu d'avoir forcément des arrêts avec des coups de sifflet toutes les deux secondes, la première mi-temps, tu as l'impression qu'il faut saigner du pif et des gencives pour avoir de lancers francs.
La première mi-temps, elle est fluide. Et en plus, ce qui accentue ça, c'est que, comme on l'a dit, au premier quart-temps, ça rentre. Deuxième quart-temps, beaucoup moins. Et bon, il y a aussi...
Pour les Spurs,
on va y revenir. Mais oui, clairement, il y a cette impression de fluidité qui est agréable à regarder en direct, quoi. Et ça fait du bien.
Sur le deuxième quart, vu que tu termines le premier en menant 34 à 25, tu es en droit de te dire côté Spurs, allez, on va le faire. Et même quelque part, les Knicks pouvaient s'y attendre. Le désespoir va être côté Spurs. Les Spurs jouent avec ce désespoir là ça se passe bien, tu te dis peut-être que sur le second quart-temps l'écart va grossir. Je vois qu'il se marre.
Petit souci.
Vas-y, parle-nous un petit peu de ce second quart, parce qu'il y a beaucoup de choses à devoir discuter.
Il y a 30 secondes qui se passent bien. Il y a deux bonnes positions de shoot, l'écart continue encore à monter, je crois que ça monte à 13-14. Et sur les dernières 11 minutes 30 du quart-temps, j'ai les stats juste là. 31-15 Knicks déjà. Donc ça fait mal en termes de score. Et 3 sur 20 au tir pour les Spurs.
3 sur 20.
Sur les 13 derniers, il n'y en a qu'un seul qui rentre. 3 sur 20. Et au début, peut-être, il y a quelques tirs un peu ouverts, etc. Après, il y a aussi beaucoup de mauvais tirs.
Mais c'est... Merci. Faut en parler. L'attaque des Spurs dans le deuxième quart-temps, c'est une atrocité visuelle.
Ah, c'est dégueulasse.
Ah non, mais moi, j'ai compris que tout de suite ressortaient certains... tweet hein, pendant la nuit qui me disait Bastien, attends, mais on a parlé toute la saison de parfois l'innovation offensive de Mitch Johnson qui peut avoir des limites. Ok, il y a un très bon plan de jeu aussi défensif d'Enix, hein,
bien sûr,
où ça se voit. Il y a beaucoup de séquences vidéo qui sont sorties de Shamet et Brunson qui annoncent les futurs sets des Spurs en disant non, là c'est Horn, là c'est Spain pick and roll, là il y a plein de choses qui se mettent en place. Mais oui, le niveau des choix des joueurs des Spurs dans le second quart-temps, c'est terrible.
Bah déjà, on l'a dit, Victor Wembanyama n'arrive pas à rentrer dans la raquette. Première mi-temps, oui, il prend que 4 tirs. C'est une catastrophe à ce niveau-là, il faut le dire. Et le problème aussi, quand il y a Victor Wembanyama qui n'est pas dans la raquette, c'est que c'est encore plus... Il ne te fait pas de différence aussi pour les autres pour trouver des espaces dans la raquette. Et là, tu sens que c'est plein. Et il y a des joueurs de qui on a dit tellement de bien ces dernières semaines, les Stephen Castle, les Dylan Harper. Dylan Harper fait d'autres bonnes séquences à côté, hein. Mais là, je parle dans ce deuxième quart-temps. Le nombre de drives où ça y va alors qu'il y a trois mecs qui attendent sous le cercle et qui ont juste à contrer tranquillement,
ouais,
et où ça se perd au milieu et ça fait une perte de balle un peu nulle. Castle et Harper dans le deuxième quart-temps, ils n'ont pas été aidés par tout ce qui était autour. Comme je l'ai dit, Wemby qui est pas dans la raquette, qui ne trouve pas ses positions. Il n'y a aucun chemin et on voit beaucoup la jeunesse, quoi, sur ces 12 minutes.
C'est ça, c'est marrant que tu pointes la jeunesse. Certains vont pointer, il y a beaucoup d'éléments qui vont être pointés, hein, dans ce match. Certains vont dire la fatigue, d'autres vont dire la jeunesse, d'autres vont dire la sérénité en face. Mais c'est vrai que dans le second quart, moi je suis à deux doigts de me fracasser le crâne avec l'ordinateur parce que t'imagines bien, je vois en fait une équipe qui, tout au long de la saison et des playoffs, a montré que quel que soit le challenge, ils trouvaient des moyens de l'emporter. Tu dis aux Spurs, vous êtes menés 3-2 par le champion en titre, il va falloir remporter la série en allant gagner en 7 à OKC.
Immense.
Il n'y a pas de problème.
Incroyable.
Tu perds le Game 1 contre Minnesota, il va falloir faire le boulot ensuite à domicile et à l'extérieur pour faire le travail. Ils y arrivent. Là, je dois avouer que le second quart, c'est très frappant de voir dans le même mois ou dans la même semaine une équipe jouer comme les Spurs de 2014 et comme les Spurs de 2022. C'est-à-dire, pardon, mais on a parfois du bon mouvement de balle avec certains shoots qui rentrent bien, Champagny qui y remet, Vassel qui s'y met aussi.
Et parfois le ballon bouge autant que Demar DeRozan, c'est ce que tu veux dire.
Merci pour cette ref. Exactement. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Et tu sais très bien sur quel bouton appuyer, mon cher Romain, comme ça. Mais c'est vrai que oui, c'est ça qui je trouve est extrêmement frustrant sur ce second quart, c'est qu'on a un ensemble de choix offensifs des Spurs où tu as le sentiment qu'il y a personne qui vient calmer les troupes, dire c'est comme ça que ça se passe, essayons de mettre des sets en place. Voyez bien que là, ça fait trois fois que Victor essaye des choses, mais vraiment on est sur de l'improvisation totale. Hein. Ouais, c'est très très moche ce qu'on voit en fin de deuxième quart-temps de Wemby.
Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que même quand ça essaie de faire bouger le ballon, t'as Victor qui fait une remise, retour en zone, qui est absolument affreux, qui est terrifiant.
Horrible.
Et l'action d'après, il y a une perte de balle de Benjamin, il faut le dire aussi. Et non, tu sens à ce moment-là qu'il est peut-être pas du tout dans son match, comme on l'a dit, 4 tirs. Et à côté de ça, on a parlé du bon match de Fox, dans le deuxième quart-temps, il joue moins. Il y a plus justement les jeunes sur le terrain. Ouais, il n'y a aucune solution. Les tirs de Champagny ne rentrent plus. Je ne sais même pas s'il en prend, pour être honnête, dans le deuxième quart-temps. Le banc apporte rien. Keldon Johnson, merci pour le game 6 contre les Wolves, mais sinon les playoffs,
ils sont assez atroces. Allez, le quatrième quart du game 7, je crois Keldon qui met du gros 3 points, où c'est limite un miracle. Mais sinon, pour le coup, oui, Keldon, tu as envie de te frapper la tête pareil contre le mur parce que tu te dis, mais mec. S'il te plaît, enfin quelque chose d'intéressant, t'as raison, sur le banc c'est dur.
Et donc les points du banc font la différence, on le sait d'ailleurs que comme ça se lance au début du deuxième quart-temps, c'est un peu les minutes du banc un peu généralement, il y a un écart entre les deux, on a déjà parlé de Landry Shamet. Moi si tu m'avais dit il y a 9 mois qu'il serait capable de changer tout le rythme d'une équipe, une équipe de finale à NBA, parce que le 5 majeur des Knicks, on sait à quel point il est dangereux, mais c'est une équipe quand même très demi-terrain, qui prend son temps, etc. Shamet il rentre. Je savais même pas qu'il était aussi rapide sans ballon.
C'est incroyable.
Il va à une vitesse, il change le rythme, il fait un nombre de transitions, il fait tellement de bien. À côté de ça, il y a de l'adresse. McBride, on en parlait tous les deux. Il met que 2 tirs, j'ai l'impression qu'il en a mis 8.
C'est ça. Il met 2 shoots, t'as l'impression que c'est les 2 plus importants.
Mais j'y crois toujours pas, hein, qu'il en a mis que 2.
Tout à fait.
Franchement, c'est lunaire, pardon.
Mais je t'en prie, justement, développe pour qu'on revienne en détail sur ce match et notamment sur. On va revenir après sur notamment ce qui s'est passé au niveau des fautes sur Karl-Anthony Towns dans le troisième quart, mais après un premier quart qui est plutôt physique et cohérent, qu'on aime ou qu'on n'aime pas des calls, mais il y a des lancers pour Jalen Brunson à 3 points, faute de Stephen Castle, il y a une forme d'équilibre. Dans le deuxième quart, a fucking shit show.
Oh la vache.
Tony Brothers masterclass.
la reprise de dribble de De'Aaron Fox. Franchement, il arrête son dribble, il prend un café, il part en Tahiti, il revient sur le parquet.
Il prend le bras de Josh Hart, ils font la danse bretonne, il repose un dribble, il va à l'arceau.
Aucun souci.
Retour là-bas. En zone de Miles McBride, il y a la place de mettre 3 briquets entre son pied et la ligne. T'en souviens du retour
en zone? Ouais, bien sûr, il n'a même pas le talent dessus, c'est honteux.
Il y a un nombre de situations comme ça où tu te dis, mais ils sont en train de perdre le contrôle de la rencontre. Et c'est vrai que ça ne s'arrête pas, quoi, en fait. Ça ne s'arrête pas.
Bah ouais, à la mi-temps, je crois qu'il y a plus 5 Knicks, il devrait y avoir plus 15. On va pas se mentir en termes de call. Oui. Déjà, franchement. Et bien sûr que c'est du fait des arbitres, mais c'est aussi du fait, pardon, on a beaucoup parlé du banc. Dans le deuxième quart-temps, t'as Michael Bridges qui rentre sérieusement dans son match.
C'est Michael Bridges, peux le dire.
Michael, 9 points, 3 sur 3, 3 points, il me semble, quelque chose comme ça.
Énorme Michael Bridges sur cette rencontre, hein, tout à fait.
C'est le plus gros carton aussi de Towns sur le match, on en parle beaucoup. Towns, il se fait une différence sur le deuxième carton.
C'est ça. Quand on est à la mi-temps, il faut applaudir Karl-Anthony Towns qui, très clairement, au bout de 8 cartons joués, pour moi, est le MVP de ces finales 2026.
Complètement d'accord.
Domine sa match-up. Ponctué d'ailleurs, on le voit sur second quart-temps avec ce drive ligne de fond sur Wemby où il met un Tomar et le stare down. Il fait comme ça en regardant Victor, mais en baissant le regard un peu parce qu'on ne va pas prendre de fautes techniques. Oui, et puis on va pas se faire non plus un torticolis. Mais c'est vrai que Karl-Anthony Towns est dans un tel rythme parce que les choix offensifs sont excellents pour lui. Au premier match, pas de tir à 3 points, mais sur cette première mi-temps, là par contre, ça dégaine.
C'est ça, on en avait bien parlé. Je crois que dès que justement Wemby se jetait un peu, il arrivait à bien le driver dans le premier carton, dans le premier match, pardon. Et là, oui, c'est l'inverse. Wemby se jette pas, il laisse un peu de place, ça rentre.
Ça rentre. Plus de ça, il y a du playmaking. Il y a une passe pour Michael Bridges là dans le corner. Oh là là, la vache. 4 en fait à la mi-temps. Je crois que c'est. Je suis pas spécialement fan, je sais pas toi, mais de ce qui est devenu notamment Charles Barkley, Shaq, etc. Bon, leur émission, c'est devenu un petit peu le comptoir PMU des tontons. Et bon, quelque part, ça a été déjà, mais là, on a atteint un
Un autre
autre
niveau,
niveau.
ouais.
Barkley, je sais pas si tu as vu à la mi-temps sa citation,
Pas du tout.
mais Barkley est justement à l'antenne. Et comme tu le dis bien, les Knicks mènent. Victor a pris, comme tu dis, quoi, 4 tirs sur la première mi-temps.
Ouais, 4, je crois.
Il y a des ballons perdus, etc. Pendant que Karl-Anthony Towns est en train de large dominer. Et il dit, Victor est en train de se faire botter le cul et il a l'air très atteint psychologiquement par ce qui se passe parce qu'à mon avis, ça doit faire très longtemps qu'il ne s'est pas fait botter par un intérieur comme ça dans un match à aussi haute tension. Parce que c'est vrai que des mecs qui vont aller prendre un match-up Wemby et dire merci, t'es mon petit, comme le fait Kat, c'est devenu rare quand même.
Oui, bah surtout que le parallèle avec Chet Holmgren, la série d'avant, prenez des lunettes anti-éclipse parce que sinon vous allez avoir les pupilles bien dilatées.
Tout à
C'est
fait.
pas le bon terme
Non,
d'ailleurs,
mais je
mais
le
de
verrai.
crier.
Mais quelque part, même, les rôles sont
Ouais.
inversés. C'est-à-dire que
Bien
Victor
sûr.
devient le Chet dans ce rôle-là, quoi.
À la mi-temps quand même.
À la mi-temps. À la mi-temps. À la mi-temps, tout à
Mais
fait. On est à la mi-temps.
oui, à ce moment-là, clairement, il n'y a pas un endroit du jeu où il est impactant. À la limite, en première mi-temps, les Spurs dominent un peu au rebond. Ça va s'inverser sur la suite, on va vous le dire. Mais sur le reste, à l'intérieur, KT est plus costaud. Il le fait payer au large alors que Wemby rentre pas ses shoots. Playmaking, il est plus impactant que Wemby. Même en défense, du coup. Enfin, Wemby a quand même des possessions défensives où il est très intimidant. Évidemment, comme toujours, il l'aura même dans ses pires matchs en carrière.
Oui, bien sûr. Alvarado, son layup, il finit au 8e rang.
Et
Voilà,
voilà.
c'est cadeau.
Mais oui, dans KT domine partout. Partout, il est plus, on le voit largement plus, quoi. On a l'impression qu'il y a trois intérieurs qui sont en train de contenir Victor Wembanyama.
C'est
Tout à
ça.
mettre à son crédit.
Absolument. Kat est absolument royal. Et après le nombre de critiques qu'on a pu notamment lui faire, moi le premier, Alex aussi en a parlé,
Moi
toi
aussi.
aussi, beaucoup de fans d'Enix, il y avait de l'incertitude. Le niveau auquel il joue là de sérénité, t'as l'impression qu'il y a une espèce de paix, comme il en parlait à la fin du Game 1, où il te donne le sentiment qu'il est en total contrôle de son jeu, qu'il a vachement progressé défensivement sur notamment cette saison et ses playoffs. Enfin, il est extraordinaire à regarder jouer. Hein.
Et puis là, même à la fin du Game 2, il a été vachement touchant. C'est dur comme sujet, mais il a parlé de sa mère qui est décédée et il dit qu'il a l'impression qu'elle était avec lui, que sur le shoot, juste avant le shoot raté de Wemby à la toute fin de match, dont on reparlera, il avait l'impression qu'elle était avec lui et que du coup, il était très serein. Que ouais, au moment d'entrer sur le terrain, là, il arrivait pour prendre du plaisir sans stress. Il prend ce qu'il a à prendre, les motivations lui sont propres, mais en tout cas ça fonctionne et c'est beau à voir, ouais, d'un joueur qui arrive à son meilleur niveau au meilleur moment et c'est parfait. Et d'ailleurs, bah, peut-être qu'on peut aller là-dedans. Quand le troisième quart-temps bascule,
Oh là là.
c'est parce que lui est mis en difficulté et par un facteur extérieur, j'ai nommé Tony Brothers.
Tout à
Ah,
fait.
cette séquence, faut y aller, hein.
Alors, le
Oh,
troisième quart.
pardon, oui.
Non, non, mais on va y aller, mais tout à fait.
Pardon.
Mais chronologiquement, moi je t'avoue que quand on sort des vestiaires et que la mi-temps va reprendre, je me dis, bon, les 4 dernières minutes des Spurs de la première mi-temps, c'est un enfer sur Terre. Que des choix de merde.
On l'a dit 1 sur 13 au tir.
Exactement. Que des choix de merde. En face, sans jouer un basket de la Dream Team, ça joue suffisamment bien pour creuser l'écart. Les choix sont atroces. Bon, tu es en droit de te dire à ce moment-là que l'entame du troisième quart-temps va être bonne côté Spurs. Atroce! Non mais atroce! Je crois que d'ailleurs ça démarre avec un rebond offensif de 4 sur Wemby et que il score quoi.
Je l'ai plus totalement en tête, pour être honnête. Tout début du troisième quart-temps, tellement c'est cette faute qui m'a marqué. Mais oui, ce qui est sûr, c'est que l'écart se maintient, voire il se creuse encore un petit
Ça
peu
se creuse,
plus.
ça se
Ouais,
creuse,
ça
ça
se
se
creuse,
creuse.
ça se creuse.
Ça se creuse, c'est Nix monte à
T'as
10-12. Ouais.
Michael Bridges qui continue son chantier. Les stats à la fin de match, c'est 20 points à 8 sur 13 au tir. Mais en fait, dans le dernier quart-temps, il fait un 0 sur 4. Sur le deuxième et le troisième, sur le premier quart-temps, il tire pas du tout. C'est vraiment le deuxième et troisième quart-temps où il est à 8 sur 9 au tir.
C'est ça.
4 sur 4 à 3 points, il me semble.
Ouais.
Ouais, 9 points dans le deuxième, 11 dans le troisième. Donc là, puis il fait des shoots qui lui ressemblent presque pas, quoi. Il dribble, il va se prendre son step back à mi-distance, ça rentre que de la ficelle. C'est.
KD.
Ouais, non, vraiment.
Ouais, bien sûr, bien
Vraiment.
sûr. Il y a vraiment
Il
des shoots
y a de
assez
ça,
énormes de
quoi.
sa part.
Et donc, ouais, ça, dans son sillage, ça continue à creuser. Il me semble que Brunson met quelques shoots au début du troisième quart-temps aussi.
Il y a du gros 3
Mais.
sur la tronche de Wemby
C'est
en
ça.
semi-transition. Il y a quelques pull-ups qui sont mis en effet. Alors que pourtant, ça permet justement peut-être de faire un passage là-dessus. Brunson avait été clutch dans le Game 1.
Ouais.
Avait été énorme alors que les trois premiers cartons c'était difficile. Enfin, je veux dire, il prend 30 shoots pour mettre 30 points. Hein. Et on avait discuté avec Alex et je voulais avoir ton avis parce que là, si t'es les Spurs, en deux matchs, tu fais exactement ce que tu peux faire de Monsieur Brunson. Il est à 7 sur 25 au tir hier soir.
Malheureusement, sur le quatrième carton du premier match, je dirais pas que tu fais ce que tu peux faire de mieux. Et ça se voit directement.
Bien sûr, t'as raison.
Parce que dès que tu relâches la pression, il est trop fort et il s'infiltre. Mais ouais, là, bah on l'a dit directement, les trappes, les prises à deux, il y a des pertes de balles qui sont provoquées. Il se bat autrement, hein. Je crois qu'il gratte 5 interceptions dans le match, Brunson.
Faute offensive, il a provoqué aussi.
Ouais, j'irais pas jusqu'à dire qu'il a fait un mauvais match, même dans le dernier quart-temps, on en reparlera, il refait des trucs. Mais oui, tu peux difficilement mieux le défendre, mieux le contenir. Les pourcentages, ils sont immondes sur les deux matchs. Il y a des tirs ouverts aussi hein, qui manquent.
Oui,
il
y a du 3 dans le corner. Enfin, pardon, du 3 à 45 degrés où il est ouvert, il les met pas. Ouais.
Mais ce qui est sûr, c'est que ouais, après 2 cartons et demi, t'as l'impression qu'ils vont gagner largement, facilement, sans un grand Brunson et que tu peux rien y faire. Quoi.
C'est ça. Les Knicks et leurs fans, qui sont quand même venus en nombre à San Antonio, notamment parce que passer une semaine à San Antonio dans un hôtel 4 étoiles avec les billets de match et la bouffe illimitée versus prendre un billet pour le match 3.
Bon, bah, 3 000 $ d'économie.
Exactement. Non, mais c'est vrai, hein, pour ceux qui n'ont pas vu les stats, moi je les ai balancés dans la nuit là. Game 3 à New York. Là désormais, le prix d'entrée c'est 11 000 $.
Je n'ai pas ça sur le compte.
Moi non plus. Je vais être très clair. Game 4 c'est 13 000 $.
J'ai encore moins ça sur le compte.
On va reparler pour voir ce que ça donne. Mais...
Ah la vache.
Mais oui, quand on est dans ce milieu de troisième quart-temps, les Knicks sont en contrôle total de la rencontre. Même si on a potentiellement un ou deux shoots pour Victor qui passe, qu'est-ce que tu cherchais ?
Je cherchais s'il n'y avait pas un chat que je pouvais effleurer pour que ça fasse une faute ou pas.
Ah oui, oh là là. Pardon. Oh mon ami. Non, mais bien sûr, on va y arriver parce que justement, je te lance là-dessus. Quand on a les Knicks qui sont en contrôle, ça se passe bien. Les Spurs, même si on a quelques garçons qui essaient de trouver leur rythme, sont encore en train de s'entêter et tu sens qu'en fait, la direction, ça peut plus être de plus 12 à plus 20 que de plus 12 à moins 1. Là, on arrive dans un espace-temps de 30 secondes sur deux fautes quasi imaginaires. Enfin, je veux dire, on peut débattre autant qu'on veut, hein, mais les fautes, elles sont ultra dures pour Karl-Anthony Towns qui en chope 4, du coup.
C'est ça, si on en parle autant, c'est que ça a changé le match. Enfin, ça a failli changer le match, failli changer le résultat.
Oui.
Final, ouais, il y a un tir de Wemby qui n'est pas forcément bon. Et qui rate, c'est à mi-distance un petit peu sur la gauche, qui rate largement. Il y a presque le temps de prendre le rebond avant que la faute elle soit sifflée.
Ouais.
Mais parce que voilà, c'est raté, du coup c'est sifflé contre 4. Il n'y a rien. Sur celle-là, il n'y a aucun débat. Il n'y a absolument rien. Donc troisième faute déjà. L'action d'après de l'autre côté.
Une faute offensive.
Towns qui prend position sur Castle. Castle qui glisse son bras. Au final, on dirait un petit peu que c'est Towns qui le retient, mais c'est vraiment pour moi. Hein. Pour moi, c'est Castle qui met son bras. Et.
Oui, vas-y, t'inquiète, je vais ajouter.
Ouais, pour moi, c'est Cassel qui met complètement son bras. Et s'il y a faute, elle est défensive. Ça, c'est faute offensive. 4 fautes pour Towns qui joue plus pendant 7-8 minutes. Les Spurs sont mieux. Victor Wembanyama, c'est à ce moment-là qu'il commence son match.
Tout à fait. Inspiration ou pas ? Appel des dieux de New York ou pas ? Mais il se passe un truc à ce moment-là où je me dis bon, peut-être qu'il sait quelque chose qu'on ne sait pas. Peut-être que ça va être utile par la suite. Mike Brown ne prend pas de challenge.
Ouais.
Sur les fautes de 4. Non, parce que c'est quand même important. Le coach Phoenix se retrouve dans une situation où 4 prend deux fautes, ou même Josh Hart, hein, quand il fait des fautes et qu'il se retrouve lui aussi avec, je crois, 4 fautes dans le 4ème carton.
Ouais, mais il y en a même 5 même à un moment.
Oui, même 5 fautes tout à fait dans le 3ème carton, ou en tout cas sur la fin de match. Mike Brown et son staff ne prennent pas de challenge.
Ouais, ça va avoir son importance, spoiler.
Ça va avoir son importance parce que quand, comme tu le dis bien là, quand il y a cette bascule, Kat doit sortir et là, il y a un début de remontada des Spurs avec en son centre, Wemby.
Ouais.
Qui fait une deuxième mi-temps, il faut le dire, avant les deux dernières minutes du match, au secours.
Il me semble qu'il y a un 9-0 directement, tout simplement.
Oui, c'est ça.
Des Spurs avec Wemby qui score à 3 points. Qui commence à dominer à l'intérieur, qui prend des rebonds offensifs. Enfin, très bizarre, quoi, à ce moment-là.
Oui.
Vraiment. Ça se voit gros comme une maison. Et les Spurs se rapprochent, ça va mieux. Et s'ils perdent le match à un moment, c'est peut-être à la toute fin de ce troisième quart-temps, où justement, là où Wemby sort, et ça se passe pas comme au premier quart-temps, les Knicks refont un run un peu, justement, c'est à ce moment-là, je crois que McBride est très fort, que Bridges remet des shoots.
Michael remet des shoots.
Et au final, à la fin du quart-temps, en fait, si tu regardes le score, les Knicks ont gagné le troisième quart-temps, malgré ce gros run des Spurs 104.
Ouais, tout à fait.
Et c'est à ce moment-là, à mon avis, qui dessert l'étreinte et où ça fait trop mal à la fin de match. Mais cette décision, elle a failli tout faire basculer. Les Spurs ont su en faire quelque chose pendant le troisième quart-temps. Et là, j'anticipe un petit peu. Au-delà du troisième quart-temps, c'est faute, elle change tout parce que 4 dans le quatrième quart-temps, il peut pas défendre pareil
plus. Oui, bien sûr.
Donc l'impact de Wemby est beaucoup plus fort. Il prend beaucoup mieux les positions parce qu'en face, t'as pas le droit de le défendre de la même manière, quoi, tout simplement. Sinon les Knicks étaient trop dans la mouise, quoi.
Absolument. Et c'est là où aussi, moi, je t'avoue que quand j'ai regardé le match, malgré toute l'émotion évidemment du moment, il fallait avouer l'évidence. Ces Knicks-là jouent comme une équipe championne NBA. Ouais. C'est-à-dire que, tu l'as dit en tout début de vidéo, et je suis totalement d'accord, les Knicks sont en train de montrer que, quel que soit le contexte dans lequel on les met, ils trouvent une solution. C'est-à-dire que quand tu es dans ce troisième quart, Jalen Brunson est à 1 sur 8000 au tir. On avait parlé au Game 1 du fait qu'ils allaient peut-être pouvoir retrouver sa 3 points, ils la retrouvent. Je crois qu'ils sont à 12 sur 26 à 3 points un moment avant le début du quatrième quart, un truc comme ça. Josh Hart prend des fautes. Karl-Anthony Towns, apparemment, a agressé la famille de Tony Brothers. Et quand bien même il y a tout ça, tu creuses l'écart. C'est-à-dire que ces Knicks, en fait, on voit même, c'est pour ça que je voulais te lancer là-dessus sur l'aspect les Knicks répondent quoi qu'il arrive, parce que pareil, on a parlé en off. Même quand tu as, dans le quatrième quart-temps, là, De'Aaron Fox qui essaie un petit peu de chafouiner Jalen Brunson front contre front, là. Toutes les techniques qui sont envoyées par les Spurs sur les Knicks, être physique avec Brunson, l'envoyer au sol, faire prendre des fautes, espérer que ce soit le Tony Brothers game, agresser à l'intérieur, patati patata, quoi qu'il arrive, les Knicks ont une solution, en fait.
Ouais, c'est ça. Et puis dans cette toute fin de troisième quart-temps dont on parle, le nom qu'on a utilisé pour l'instant presque que pour se moquer et dont il ne fallait pas du tout se moquer hier, c'est Mitch Robinson. Justement, la fin de troisième quart-temps, hein, elle est énorme. Il pèse beaucoup sur le match. Il domine Cornette à ce moment-là. Il est... Franchement, lui... Justement, il joue avec une main, c'est du placo. Et malgré ça, il a un impact dingue, il prend des rebonds, il redonne des secondes chances à son équipe parce que oui, ça part de là. Dans la deuxième mi-temps, enfin justement, à la mi-temps, les Spurs dominent au rebond, je ne sais plus de combien, mais je pense qu'ils ont bien 4-5 rebonds d'avance. À la fin du match, c'est 44-42 Knicks. Ouais. Et surtout, il y a 10 rebonds offensifs à 5 et les 10 rebonds offensifs, ils sont tous exploités. Ouais. J'ai pas vu la stat de combien il y a de points sur ces rebonds offensifs sur ces deuxième,
second chance points,
troisième chance.
Je vais peut-être essayer de te trouver ça, hein, bouge pas, mais ouais, c'est vrai que c'est un aspect hyper important.
Ça, il y a des deuxièmes chances, des troisièmes chances. Elles sont toutes mises à profit pour les Knicks et justement, ils arrivent à faire la différence à ce moment-là. Et ce qui va dans ce sens-là, c'est que sur l'ensemble du match, on parlait de l'adresse des Knicks, oui, ils mettent dedans, mais les Spurs, il me semble. Ouais, c'est ça, ils shootent à 47% sur le match,
ouais.
Sauf qu'ils prennent 78 tirs. En face, les Knicks, ils tournent que à 41% au tir
oui.
global, sauf que bah ils prennent 89 tirs.
C'est
donc,
ça.
Donc la différence, elle se fait, c'est énorme quand même, 11 tirs de différence dans une telle affiche.
Tout à fait, j'ai pas les second chance points, mais c'est vrai que dans le ressenti du match, t'as raison de le souligner, on a beaucoup de situations sur lesquelles les Knicks arrivent à obtenir encore des situations pour shooter, pour scorer, et donc ils sont un cran au-dessus. Premier élément sur lequel on sait que la marge d'erreur elle est très très fine pour ces Spurs là face aux Knicks, t'es en finale NBA, c'est qu'il faut pas laisser de survie. Autre élément aussi qui fait mal, les lancers francs.
Oh là là.
Ouais, oh, les lancers, les Spurs, oh oh oh, dans un match serré comme ça,
19 sur 27, ouais.
Oh.
Et en plus, c'est pas habituel. Il y a des équipes, les Cavs, sur ces playoffs, par exemple, je crois.
Oui.
C'était absolument immonde tout du long. Là, eux, ils sont à 83% de moyenne sur les playoffs. Je l'ai noté, donc normalement, ça rentre. Là, ouais, il y a Wemby qui fait 5 sur 8, je crois. Et il y en a d'autres qui en ratent. Ils ratent pas à moitié parfois. Hein.
C'est tout à fait. C'est typiquement le genre de match où, si tu regardes le score final et que ça a été un peu serré, tu peux te dire. Voilà encore un élément sur lequel on peut avoir des regrets. Ce sont des points gratuits. C'est-à-dire que quand les Knicks, certains regardent et disent ils sont à 16 sur 21, oui, mais c'est la jurisprudence Mitchell Robinson. C'est-à-dire que tu retires Mitchell Robinson et en fait, ils n'ont loupé que 3 lancers les Knicks.
Deux même. C'est 3 sur 6, je crois, il fait Mitchell Robinson.
Oui, c'est ça, pardon.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, donc c'est rien. Ouais.
Donc ça veut dire que ces Knicks-là ont été impeccables, mais tu donnes des secondes chances. Tu n'es pas très pertinent dans tes choix offensifs et quand tu vas sur la ligne. Par la grâce des seigneurs zébrés.
Ça, c'est ce que j'allais dire. Tu mets 19 lancers francs sur le match, c'est bien, mais t'aurais dû en avoir que 21, donc... mais pas 27. Non, je rigole.
Non, mais bien sûr.
Mais oui, non, une fois que t'as ces lancers francs, faut les mettre. Ouais, ça, c'est sûr et certain.
Et dans le quatrième quart, moi, je t'avoue qu'à un moment, je discute avec la rédac qui était de nuit et qui je disais, bon, on va préparer la fin de match gentiment parce que il y a, avec 4 minutes à jouer, 3 minutes à jouer, il y a, on retrouve les 10 points d'avance d'Enix. Et moi, à ce moment-là, je pense que comme beaucoup, je me dis, il y a aucun run qui peut avoir lieu.
Bah, ouais, c'est pour être très exact, ça. Il reste 6 minutes et il y a 14 points d'avance.
C'est ça.
14, c'est quand même.
Plus 14.
Ouais, ouais.
Gros stuff. Je sais plus si c'est sur un gros shoot de McBride ou si sur un gros shoot de Chamette, mais on monte à plus 14.
Ouais.
Et là, sur la fin de match, on entre dans une espèce de 8ème dimension. Il y a un gros 3 de Fox.
Ouais.
Je me souviens qu'il met un peu la pression, notamment sur Enix, en mode genre, oh, on va essayer de calmer le truc.
Et juste derrière un drive aussi de sa part, il met 5 points de suite.
Ouais.
Puis une passe pour Wemby. Enfin, Fox prend les choses en main. Ouais.
Fox prend les choses en main. Et Victor aussi s'y met, puisqu'il met, je crois, 22 de ses 29 points en deuxième mi-temps. Un
ouais.
truc comme ça.
21, il me semble. 21. Ça, quoi.
De ses 29 points en deuxième mi-temps. Et là, on va entrer officiellement dans le Money Time, dans les deux dernières minutes. Avant ça. Oui, merci. Avant ça, et que je m'énerve en direct, je suis désolé. La séquence qui va venir va être très très drôle, mais je suis obligé de la faire. Mesdames et messieurs, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux de Trash Talk, à commencer par Instagram.
Désolé, je vois en avance ce qui se passe.
On a fait un jeu concours avec les copains d'Unibet. Opportunité incroyable. Si vous voulez vivre le Game 5 des finales NBA à San Antonio, vous allez sur le compte Insta de Trash Talk. Et voilà. Et en fait, non mais en vrai, opportunité de zinzin. On va en parler après.
Opportunité de zinzin.
Opportunité de zinzin. C'est-à-dire que littéralement, c'est cadeau, il y a jeu concours. Et on ne sait pas à l'heure actuelle s'il va y avoir un Game 5 à San Antonio. Si les Spurs en remportent un des deux, dans tous les cas, vous pouvez participer au jeu concours.
Jeu concours de malade.
Exactement. Je vous mets le lien en premier commentaire de cette vidéo. Allez-y, foncez. C'est très simple. On vous a mis toutes les conditions là justement pour participer. C'est notamment du follow de compte et de liker le post et taguer la personne à qui vous voulez partir. Mais voilà, à la base, on a eu cette possibilité de se dire, hey, on fait quand même. Non mais attends, à la base, on fait quand même un truc de ouf. C'est de proposer d'aller vivre un match de finale NBA à San Antonio. Hey, il va y avoir un Game 5 dans cette finale, hein.
Extraordinaire. Bah, surtout oui, au moment de la publication, mais il n'y a aucun doute dans la tête de personne.
On y va.
Ah, non, mais,
on y va.
Non, on a déjà les billets d'avion. Il y a le barbecue texan qui est réservé. Il y a rendez-vous dans des saloons. Non, c'est tout droit. C'est tout droit.
C'est une opportunité de rêve.
Ah oui, incroyable.
Moi, j'ai envie de demander.
Il faut que ça arrive.
En fait, j'ai envie de demander. Tu sais quoi ? Face caméra, je vais le demander. S'il vous plaît, la commu. Forçons ce Game 5. Participez. Allez-y, s'il vous plaît. Et on va faire le push et on va croiser les doigts pour qu'il puisse y avoir ce Game 5. Ah, Amy, tu sais quoi, les fans d'Enix, allez-y, prenez le Game 5. Finissez-nous sur le parquet, j'en peux plus. Mais comment j'aurais le seum qu'on ait pu mettre ça en place et que ça se termine avec un... Bah super, le jeu concours, en fait, le match n'existe pas. Le match n'existe pas, juste.
Mais en plus, rien que hier, petite anecdote perso, je suis au resto avec mes parents et on parle de cette offre, de cette opportunité, et mes parents qui n'y connaissent rien en basket me disent bah, c'est quand même risqué, hein, de faire un jeu concours quand il y a
un match qu'on ne sait pas.
Ouais, moi je réponds maintenant, il n'y a aucune chance, il n'y a aucun monde, franchement. Pourtant, moi aussi j'ai mis l'Enix avant le début de la série. Hein.
Ouais.
Il n'y a aucun monde, il n'y a pas de match 5, c'est safe, c'est comme de dire qu'il y a une Coupe du Monde cet été, ça va tout droit.
Ouais, ouais. C'est vraiment ça. Bref, du coup, allons-y. Et en fait, si on vous le montre aussi maintenant et non pas en lendemain de Game 3, c'est qu'en fait, vu que le match 5 a lieu le week-end prochain, le jeu concours, il a lieu ce week-end. Ça s'arrête ce lundi soir. Donc, c'est pour ça que je fais une transition avant qu'on parle de ces deux extraordinaires dernières minutes du match. Voilà, on offre les dernières places pour les NBA Finals avec les copains d'Unibet. Vous pouvez foncer sur le lien en premier commentaire, c'est épinglé. Vous avez jusqu'à lundi soir, puisque ensuite, dans la nuit de lundi à mardi, on aura le Game 3 des finales NBA dans la folie, la Madhouse du Madison Square Garden.
Et les dernières places, c'est peut-être bien littéral. Hein. Pardon.
Ah, venez me troller. Allez-y. Allez-y.
Désolé, fan des Spurs. On va pas être meilleurs copains à la fin de cette preview, peut-être.
Normal. Attends, c'est... Déjà, il faut rigoler. En plus, ça s'appelle Trash Talk. Donc, fonçons. Voilà. N'hésitez pas à prendre vos places pour le game 7 de cette série. Atroce.
Qui aura lieu en décembre 2026.
Tout à fait. Ou dans votre tête. mon cher Robin, on va entrer dans ces deux dernières minutes du match. Et notamment sur ces Knicks qui n'arrivent plus du tout à mettre un seul panier, notamment parce que là, oui, ça laisse jouer, mais il y a des excellentes défenses des Spurs.
Ouais. Ouais, ils retrouvent l'intensité du premier quart-temps.
Merci. À la hauteur de ce qu'on a vu dans le Q1, Wemby est partout. Dylan Harper hyper agressif vers le panier et en pression tout terrain avec Stephen Castle qui a eu des problèmes de faute. Parce que Stephen Castle, bonjour. Hein.
Ouais, oui, très mauvais match.
Au secours. Et Fox. Finale.
Ouais. Ouais.
Tout à fait. On a ces Spurs qui mettent la pression défensive. La salle est en train de complètement exploser. Il y a eu un 3 de Devin Vassell qui remet à 2 points là. On se dit au secours. Et après une dernière très très bonne défense des Spurs, transition pour Dylan Harper qui offre la balle à Wemby, end one. End one.
Ouais. Et là, c'est la première fois qu'il y a une grosse célébration dans le match. La salle explose. On oublie qu'il y a des fans des Knicks à l'intérieur. Et ouais, non, à ce moment-là, tu te dis, bon, bah c'est bon, ils ont renversé le cours de ce match. Et non, ça va tout droit.
Normalement, ça va tout droit. Et on voit le bandeau tout en bas qui indique premier lead des Spurs dans la deuxième mi-temps. Ouais. C'est-à-dire qu'on est, on est sur un hold-up. C'est-à-dire que littéralement, si ces Spurs-là finissent par prendre le match, c'est la remontada du siècle et on serait en droit de dire au secours, qu'est-ce que c'est que ce call sur 48 Towns dans le troisième quart-temps. T'allais dire ?
Mais non, je veux reciter le nom de Fox parce que justement, on disait, ils sont menés de 14 points, c'est un 14-0 en fait le run. Et justement, qui commence avec ses 5 points consécutifs de Fox, qui sert aussi Wembanyama une première fois, c'est lui qui sert Devin Vassell sur son 3 points. Il me semble que c'est lui qui sert Wemby sur le N1.
C'est Dylan Harper en transition.
Ouais, ok, non, j'étais pas sûr justement. Mais en tout cas, c'est lui qui remet. Tous les autres font d'énormes choses, mais c'est vraiment Fox qui assume son rôle de patron. Et ouais, justement, après le premier match, on disait sûrement à raison qu'il ne devait pas être autant sur le terrain, dans le dernier quart-temps. Là, c'est lui le patron de ce quatrième quart-temps.
T'as raison, c'est important de le souligner.
Et tu me parlais d'un challenge de Mike Brown qui risque d'avoir son importance.
C'est aujourd'hui, en tout cas, à chaud sur le débat, le challenge le plus important, c'est une règle qui existe depuis quelques années en NBA, hein, ça fait pas 25 ans, mais elle a été implantée il y a quelques années. C'est, à l'heure actuelle, peut-être le challenge le plus décisif des finales NBA.
Je les ai pas tous en tête, mais
moi, je n'ai pas une seule fois un souvenir d'avoir eu un coach qui prend une aussi bonne décision pour changer la chose. Pourquoi ? Parce que on a une défense complètement folle des Spurs.
Ouais.
La salle est assourdissante. On le sait, dans ce genre de situation, quand tu es à domicile, tu peux un peu plus tout te permettre.
Oui.
C'est comme ça. Et parce que les arbitres le savent, ça fait partie du flow de la rencontre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. OG Anunoby se retrouve dans le corner, prend un 3... Feinte pour prendre un tir à 3 points.
Oui, oui.
Et à ce moment-là, on a Julien Champagny qui met la mimine.
Ah, il ne met pas que la mimine. Hein.
Ah, il lui prend le bras, tête, épaule et genou, pied.
Bonne décision de Mike Brown. Tout le monde la voit. Heureusement qu'il l'apprend.
Absolument. Et les arbitres sifflent pourtant à ce moment-là. Donc,
tout le monde perd la
de balle, ball Spurs, on y va.
Tout le monde la voit, sauf les arbitres.
Tout
autant
à fait.
Pour moi. C'est vrai.
Et là, Mike Brown, bien clutch, qui fait tourner le doigt, se pointe jusqu'au milieu de terrain pour dire, les gars, on va revoir ça.
Ouais, et évidemment, il y a énorme faute qui, vraiment, devant mon écran, mais il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Et justement, quand on a dit que les fautes du troisième carton avaient failli changer le match, là, s'il n'y a pas de challenge sur le quatrième carton, vu la dynamique, on sort du 14-0, c'est fin de match. Bon, les Spurs ont gagné.
C'est la
les
plus grosse
bascule. Pas. Et, ouais. Et donc, non, c'est final, évidemment, 3 lancés. Ils n'avaient pas le droit non plus de ne pas les donner à ce moment-là, après le challenge, franchement.
Sûr, sûr.
OG qui met les 3. Ça coupe le run, tout simplement.
Ça a mis une clim, ouais, tout à fait, sur les Spurs, parce que la salle était en délire total, qu'à cause de la review aussi, l'ambiance s'est dissipée, on a eu des joueurs qui ont perdu leur rythme, enfin bref, tu as arrêté en fait le tsunami Spurs.
Exactement.
Et donc, à ce moment-là, on se dit, bon, on va voir comment ça se passe, est-ce qu'on va avoir, sur les dernières possessions, quelques gros shoots qui sont rentrés de droite et de gauche ? Je vais essayer de me le remettre sous les yeux.
Le déroulé ?
Littéralement le déroulé des toutes dernières actions, parce que j'aimerais bien les faire avant que tu aies toi-même le souvenir parfait de ce qui s'est passé, mais j'aimerais quand même le faire dans l'ordre.
Parfait, non. Je sais qu'il y a du gros shoot de Brunson, très compliqué. D'ailleurs, Brunson, j'ai un petit quiz pour toi. Brunson met plusieurs shoots, enfin il est à 3 sur 9 sur ce dernier carton. Justement, quel est le seul joueur des Knicks qui met plusieurs shoots dans le dernier carton ? Parce que toute l'attaque des Knicks est mauvaise dans le dernier carton, faut le dire aussi. Grâce aussi à une très bonne défense des Spurs. Ils sont que deux à mettre plusieurs shoots dans le troisième quart.
J'aurais dit OG.
Landry Chamette.
Chamette.
Pendant le gars est partout sur la rencontre.
Ouais. Non, Oji en met un. Bah, pardon, vas-y. Oui.
Parce que Oji en met un énorme, peut-être.
Non, parce qu'en fait, Oji, je sais pas si c'est dans le 4ème ou le 3ème carton, mais qui monte au dunk sur un drive sur Victor Wembanyama.
Ouais, il me semble que c'est le 3ème, ouais.
Du C'était coup. Le 3ème, ok.
Parce non, qu'il y a oui, un Chamette, gros shoot d'Oji dans le 4ème, un 3 points.
Oui.
Chamette en met plusieurs. Mais oui, on arrive sur ce moment où Brunson reprend les choses en main et met un shoot non plus notamment très compliqué. Peut-être que j'oublie un shoot des Spurs entre les deux actions.
Oui, c'est en fait les lancers d'Anunobi viennent avant ce N1 de Victor avec la l'assist de Dylan Harper. Il y a 103 à 102 avec Wemby notamment qui score. Il reste une minute à jouer. Les Spurs ont le lead. Tu mets ton lancer, t'es à 104-102. C'est là qu'il y a l'énorme shoot de Jalen Brunson avec 39 secondes à jouer.
Très compliqué à mettre.
Très compliqué à mettre et qui en plus donne à ces Knicks l'éventualité de presser un peu les Spurs sur le 2 for 1, c'est-à-dire vu que on va écouler l'horloge 24 secondes, ce sont peut-être les Knicks qui vont avoir la balle de match derrière.
C'est ça. Mais d'ailleurs, ils se précipitent un petit peu les Spurs sur l'action d'après justement pour c'est garder ça. ce 2 for 1 et avoir le dernier ballon pour vraiment que les Knicks puissent plus prendre de dernier tir à la fin du match quoi.
Tout à fait. Entrée de Mitchell Robinson. Entrée de Mitchell Robinson avec 39 secondes à jouer. Là, les Spurs veulent, eux, reprendre l'avantage au niveau du chrono. Et, pardon, hein, on rentre dans les 40 secondes les plus terribles là, de Wemby sur sa jeune carrière avec le maillot des Spurs. Premier système, atroce, là, en sortie de temps mort. Un pauvre mid-range sur Mitchell Robinson pour le 2-for-1. Ça rentre pas.
Ouais, on l'a déjà vu le mettre, celui-là, quand même. Enfin, je sais que c'est un mauvais système, que c'est précipité, etc. Le shoot n'est pas si affreux, moi je trouve.
Le shoot n'est pas affreux. Est-ce que les Spurs sont dans le bonus ?
Ouais.
Chacun choisit ce qu'il
veut.
Oui, non,
il y avait largement mieux à faire. Non, il y avait largement mieux à
peut-être.
Faire.
Mais c'est vrai que Victor est en train de mettre un gros run, donc pourquoi pas. Mais c'est juste que c'est un peu frustrant par rapport à ce qu'on s'est dit sur le début de rencontre, qu'on voulait moins qu'il soit sur l'extérieur et qu'il aille un peu plus agresser, quitte à remettre un petit peu les choses dans le bon sens. Peut-être qu'il aurait pu et que Tony Brothers aurait pu. Enfin voilà, après ça, c'est chacun son interprétation.
En tout cas, il le rate.
16-foot jump shot loupé avec 30 secondes à jouer. Rebond OG à Unobi. Temps mort. Et on se retrouve là avec Mitchell Robinson qui sort pour relaisser la place évidemment à Jalen Brunson. Mais Jalen Brunson avec 14 secondes à jouer, il loupe son isolation sur Wemby. Il essaie de faire danser Victor. Plutôt bon contest, mais shoot ouvert.
Ouais, ouais, le shoot est plus facile à mettre que celui qui rentre juste avant.
Absolument.
Les Spurs peuvent s'estimer heureux que celui-là ne rentre pas. En tout cas, il le manque, ça arrive. Et du coup, il reste quoi, 13 secondes et les Spurs ont la balle de match.
Rebond Victor.
Ils ont bien joué là pour avoir le chrono à ce moment-là dans leurs mains. Non, Bastien ? Je vais me faire virer, moi.
Rebond Victor Wembanyama. Et pardon, hein, mais je vais me permettre parce que je vais me permettre, en fait. Parce que je sais qu'on ne fait pas forcément ça souvent par ici, mais... Mais le shoot est loupé, rebond, et bienvenue dans Vidéo Gag.
Oh là 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 là.
Perte de balle. La perte de balle la plus affreuse qui soit et la plus coûteuse pour les Spurs. Il n'y a rien qui va. C'est-à-dire que tu prends le rebond, t'es au MB. Il y avait potentiellement du temps mort disponible pour Mitch Johnson. Peut-être pas les gamins. Parce que ça, on peut le dire aussi quand même.
Oui, oui,
les gamins, ils
important.
Sont cramax. Ils ont 22 piges. Il n'y a pas du tout de temps mort à ce moment-là qui est pris. Je peux entendre les histoires de « Oui, il ne faut pas attendre que la défense passe les Knicks. » On se calme.
S'il y avait moins un encore, je peux comprendre. Tu fais la différence. Là, il faut que tu t'assures d'avoir le dernier shoot. Il faut pas... Enfin, c'est... c'est du
complètement
bien à bas de basket.
Complètement
prends
linéaire.
Ton temps. Au pire, ton tir, il sera peut-être un peu moins bon, mais tu n'auras pas pris de risque de perdre. Et en plus, la dernière fois, quand ils le font et que ça paye, il me semble qu'il reste 5-6 secondes sur l'horloge.
Oui.
Là, c'est dur de faire un système. Là, il y en a quoi ? Il y en a 12.
Ouais,
t'as
bien
temps,
sûr.
T'as le temps. Si tu es un grand coach, tu as le temps de faire un bon système.
Donc, tu as à la fois le coach et tu as aussi Wemby qui. On va en parler parce qu'il y a un aspect psychologique où on se dit mais qu'est-ce qui se passe forcément ? C'est. On l'a vu faire tellement de bons choix. Dans sa jeune carrière, dans des moments à très haute tension, là notamment sur la dernière série face à OKC, cette espèce de remontée de balle et ne même pas être connecté avec Stephen Castle qui lui aussi est totalement hors de son match, tourne le dos à Victor, les deux, mais c'est vidéo gag, il lui fait la passe dans le dos, ballon perdu et donc mauvais endroit au moment, faute sur Jalen Brunson. Les Knicks sont dans le bonus.
Et fini ça. Non, mais tu...
c'est, franchement, c'est terrible. C'est the ball perdu. Moi, j'ai vécu des cauchemars avec les Spurs, Robin. J'en peux plus.
Ça, tu disais challenge de Mike Brown, le plus important des finales NBA. La perte de balle la plus coûteuse, justement. On parlait depuis Gérard. Depuis Gérard, j'en ai pas une aussi grosse en tête, moi, directement, qui me vienne. En tout cas, celle-là, elle est monstrueuse. Si on regarde bien le replay, on voit qu'il y a un petit moment où Wemby et Castle, ils se croisent du regard. Wemby, il baisse les yeux pour commencer sa passe, et c'est à ce moment-là que Castle tourne le dos.
Il y a une expérience totale.
Mauvaise communication, ouais. Quiproquo, ça peut arriver, c'est juste dur que ça arrive à ce moment-là. Quoi. C'est tellement dur.
C'est
très très moche. On a parlé de Mitch Johnson, il ne faut pas lui trouver d'excuses. Hein. Ses 40 dernières secondes, elles sont catastrophiques.
Ouais.
Moi, toute la vidéo, j'ai été assez critique avec lui, même si sa deuxième mi-temps est bonne. Elle est bonne aussi, comme on l'a dit, parce que Towns pouvait pas avoir le même impact. Enfin, moi, je suis assez dur avec son match, avec son début de finale.
Ah oui, Mitch Johnson, bien sûr.
Non, là, je parlais de Wemby.
De Victor, pardon. Oui, oui. Ah bah Victor, oui.
Mais
je te
là,
confirme.
Oui, cette dernière passe, elle va rester, quoi. Non, c'est.
Et ça se voit tout de suite sur la tête de Victor. Il comprend ce qui vient de se passer, notamment parce que Jalen Brunson a de lancer et que Jalen Brunson n'a rien demandé. Il fait attends, pardon.
Ouais, parce que
vous allez me donner à moi l'opportunité de remporter le match pour les Knicks.
Ouais, ça va pas trembler. Hein.
Au secours. On va rentrer les lancers.
En
tout cas, il en met qu'un, tout à fait.
Mais bon, ça suffit.
Rebond, Joga Bonito de Luke Cornett.
Ouais, justement, Cornett qui rentre pour ça et il chope le rebond qui n'était pas simple à prendre.
Avec la semelle,
oui.
Comme on dit.
Pas simple, oui.
Ball Spurs, tu as encore une balle de match. Il reste 7 secondes à jouer. Et on va finir sur cette action où excellent contest de Mitchell Robinson.
Ouais.
Mid-range de Wemby à 45 degrés là en tête de raquette un petit peu côté droit, la balle ricoche, game over.
C'est ça. Il y a Fox qui crée une toute petite différence sur le début de l'action. On sent qu'il y va pas, on sent qu'il se dit si c'est pas Wemby qui prend Wemby ce shoot, truc, je me fais trucider.
Ouais.
Enfin, je sais pas s'il le pense, si c'est conscient et s'il aurait vraiment eu un meilleur shoot parce que le shoot de Wemby est encore une fois pas mauvais.
Ah, il peut le mettre. Hein.
Il peut le mettre.
Mais ça fait quand même
ça fait le
deux shoots ratés à mi-distance dans les 40 dernières secondes. Plus la perte de balle atroce.
Ouais, non, c'est compliqué.
Knicks win.
0 Knicks.
Knicks win. Et donc, c'est là-dessus que New York, complètement abasourdi par ce qui s'est passé, parce que tu t'es pris un run de 14-0, tu t'es dit, tu vas pas y arriver. L'autre Ryan, il a commencé à chauffer, enfin, je veux dire, côté de New York, ça a commencé à claquer des fesses hein, sur les dernières minutes. Et là, tu as ça, genre, on mène 2-0. C'est un coup de massue sur les Spurs. Parce que là, je sais pas comment tu le prends, et moi, je veux bien l'avis des gens, évidemment, c'est. Il y a de l'inexpérience, il y a de la fatigue, il y a des mauvais choix qui ont eu lieu. Mais maintenant que tu te déplaces à New York, tu te bases sur quoi ? Tu te bases sur le fait que tu as pu mieux jouer à la fin ou que, comme on se l'est dit là, nous, au tout début, il y a un réel écart sur le début de série entre les deux équipes et que là, c'est la mise à mort ?
Franchement, il y a des deux, c'est obligé. Si les Spurs gagnent, tout le monde parle de hold-up et t'es pas censé être dans cette position de gagner. Mais une fois que t'es dans cette position de gagner, ça fait encore plus mal. C'est un peu comme si tu gagnes le jeu concours et qu'il n'y a pas de game 5. Tu vois ce que je veux dire ? T'avais pas l'opportunité.
Le mec m'enfonce. C'est parfait.
T'avais pas l'opportunité de base. Mais une fois qu'elle t'est dans les mains, si elle arrive pas, t'es déprimé. Désolé pour la comparaison. Mais c'est ça.
Elle est magnifique.
Et ouais, non, maintenant que ça t'est arrivé, franchement, ça fait trop mal. Là, les Knicks, on les a vus dans les rues, c'est n'importe quoi. Il y a une ambiance folle. Sur quoi tu peux t'appuyer ? Bien, tu peux juste t'appuyer sur le fait que tu peux que mieux jouer sur que ces deux matchs. Franchement, on a vu les Spurs sur les playoffs. Il y a peu de matchs qui sont aussi mauvais que ces deux games qui font là pour commencer les finales.
Ouais.
Et c'est dommage. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que toutes les équipes depuis qu'elles affrontent les Knicks jouent très mal. Il y a peut-être aussi un truc à mettre à leur crédit. Quoi.
Absolument. T'as raison.
Donc c'est compliqué, mais tu peux quand même te dire que Wemby peut être plus fort, peut être plus à l'intérieur. J'en suis sûr. J'arrive pas encore à croire que Towns peut le dominer sur 4 matchs comme ça.
Peut-être,
mais il faut.
Mais oui.
Il va se passer quelque chose. Moi, je pense qu'il y aura un Game 5. Voilà. Je sais pas, tu vas pas t'en poser la question.
Moi aussi, on va y venir. Mais c'est vrai que côté Spurs, quand on regarde notamment pour la suite, je vous montre la feuille de stats là, de San Antonio hier soir. Tu le disais très bien, 47% au tir, 38% à 3 points. Ce qui ne va pas, rebond offensif laissé dans tous les sens et lancer franc absolument atroce.
Ouais, et circulation de balles, je crois qu'il y a quoi, tu vois mieux que moi.
Il y a 22 assists.
Ouais, mais 18 paires de balles, 16 paires de balles.
Et pour 16 paires de balles, ouais.
Ouais, le ratio il est moche.
Non, le ratio il est absolument atroce, t'as raison.
De l'autre côté, je crois que c'est 27 pour 14. Et encore, enfin.
29 passes décisives pour 15 ballons perdus.
Putain, 29 passes décisives, je l'ai noté, ouais, sur 37 tirs d'Enix, ça bouge bien le ballon, quoi.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Côté Spurs, on a Castle qui est pas du tout dedans. Sur ce début de finale NBA, Fox s'est rattrapé, mais tu ne pouvais pas non plus tomber sur Klay Thompson Champagny tous les soirs. Victor, moi je suis désolé, mais oui, il faut le dire, trop tard, trop peu. C'est-à-dire que oui, tu finis à 29 points, mais quand on voit la première mi-temps et les deux dernières minutes du match, il ne peut pas, Victor, là, en déplacement à New York, si Victor fait une première mi-temps de la même manière là, qu'il y a eu sur ce Game 2, il y a plus 25 Knicks à la mi-temps.
C'est ça, ça passe pareil. Et pareil, on le disait au Madison Square Garden, Towns, il n'aura pas les mêmes fautes et du coup, il n'aura peut-être pas de même deuxième mi-temps. On ne le sait pas. Il faut qu'il arrive à se desserrer de son étreinte avant de se retrouver dans cette situation. On l'a vu là contre les Sixers, Embiid il a réussi à gratter des fautes à Towns, c'est sa grande force. Mais je crois que sur la série contre les Sixers, Towns, il n'y a pas un match où il joue plus de 27 minutes. Mmh. Faut qu'ils y arrivent les Spurs.
Bah, c'est ça
le plan de jeu. T'as tellement de bons drivers, t'as Wemby, il peut pas être aussi tranquille sur ses fautes. Hier il l'est pas, mais il aurait dû l'être.
Merci. Bah, tu sais, j'en parlais beaucoup sur la preview. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de vacances pour Brunson et pour Towns. C'est rarissime de voir des drives sur Jalen Brunson. D'ailleurs, Stephen Castle fait un Eurostep sur le quatrième quart-temps, je crois, où en gros, il met Brunson dans la poussière. C'est peut-être la quatrième fois sur toute la soirée où Brunson se fait attaquer et qu'Anthony Towns, malgré ses énormes progrès défensifs et la série qu'il fait, est en vacances au niveau de ses fautes, sauf quand il y a Tony Brothers qui passe par là, mais sinon c'est vrai que Santonio a cette axe-là qu'ils n'ont pas encore utilisée.
Bah, pourtant, enfin, je trouve qu'ils ont drivé là, Harper et Castle, ouais, mais ils n'arrivent pas à faire en sorte que ce soit Towns qui soit en dessous, justement, parce que justement Wemby n'est pas à l'intérieur, parce qu'ils n'arrivent pas à créer ses switches, etc. Et justement, ouais, ils s'empilent sur des Anunoby, je ne sais pas combien de contre il y en a 2-3, il y en a 2-3 de Bridges.
Ouais.
Et ouais, là, on t'a cité tous les noms. Harper, il finit avec une ligne de stats qui est pas mal et il y a des flashs incroyables. Il fait un cross là dans le deuxième quart-temps.
Avec un Thomas.
Oh,
mais il est incroyable.
Mais le reste de son deuxième quart-temps et son troisième quart-temps, ils sont pas bons du tout.
Bon, après, c'est un rookie.
C'est un rookie, non.
Donc j'ai envie de dire.
Non, ouais. Ah, bien sûr, c'est pas le plus à plaindre, mais juste comme on a cité un peu tous les noms, faut dire que même lui peut faire beaucoup mieux que ce Game 2.
Oui.
La preuve au Game 1.
Non, tout à fait.
Tu as des marges de progression sur absolument tous les domaines. Même au shoot. Enfin, oui, les stats, elles sont pas mal, mais je suis sûr que tu peux shooter mieux que ça avec plus de régularité.
Je trouve que c'est les choix. Je pense qu'il frustre le plus là, quand j'ai échangé avec certains fans des Spurs là, sur les deux premiers matchs, c'est d'avoir le sentiment que ces Spurs là essayent de jouer à un jeu qui n'est pas forcément le leur. Il y a beaucoup de situations où ils veulent sauver la mise, parfois en isolation, laisse-moi prendre des pull-up sans regarder forcément que 1 on est dans le bonus, 2 il y a tel mec qui sont des mismatchs sur le terrain vraiment, et ça là-dessus je crois qu'il faut aussi que le staff vienne aider les jeunes, parce que là tu as l'impression vraiment qu'il y en a qui courent, enfin c'est des attaques de poulet sans tête, hein. C'est vraiment genre ça galope en se demandant ce qui va se passer. Défensivement, tu l'as dit, tu peux continuer à faire ce que tu as fait sur Jalen Brunson, les calls ne seront pas les mêmes à New York, mais tu sais quelles sont les bases défensives que tu peux mettre en place face à ces Knicks. C'est à dire que bon, bah en deux rencontres ils en ont mis 210 les Knicks en deux matchs, c'est une perf côté Spurs.
Ouais.
Le problème, c'est que les Spurs en mettent même quasiment pas 200 sur deux matchs.
Ouais, c'est sûr. Et puis, même si c'est une perf, défensivement, ce qu'ils ont montré au premier quart-temps et au quatrième quart-temps, si tu veux être champion NBA, c'est super dur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'y arrivent pas pour l'instant. Mais il faut que ce soit plus durable. Un élément qui est cool pour eux, c'est que là, on se déplace à New York et que du coup, il y a 3 jours avant le prochain match.
Lundi soir.
Tout le week-end.
Ouais, tout à fait.
Ouais, j'espère qu'ils ont un jour off demain. Si je suis Johnson, tu prends vraiment la faute.
Par contre, dimanche, je suis à la salle. Hein.
Ah, c'est ça.
La salle vidéo. Hein.
Faut vraiment de la récup là. Et là, t'auras pas d'excuses. Après trois soirs tranquilles, il faut arriver plus frais et pouvoir tenir cet effort plus longtemps. Quoi.
C'est le plus gros challenge à venir pour ces Spurs là, ces jeunes Spurs qui se prennent un gros coup d'inexpérience dans la tronche là, sur ce match. En face. Rendons à César ce qui lui appartient. Bravo. Je vous mets les stats des Knicks. Ces Knicks-là sont une équipe qui semble destinée à être championne NBA. Ils évoluent à un niveau collectif énorme. C'est-à-dire que quand par le passé, on avait cette dépendance envers Jalen Brunson, tu dis les Knicks mènent 2-0 à San Antonio avec un Brunson qui a tiré à 20 sur 8000 en deux matchs. C'est parfait.
On l'a dit ces dernières années, c'est de plus en plus l'ère des Big Free, etc. On en sort, là, c'est vraiment les effectifs deep qui gagnent. Là, tu vois, tu as un groupe de 8 avec Shamet, Mitchell Robinson et Mike Brown qui est performant hier. Tu vas chez les Spurs, t'as Dylan Harper en 6e homme, mais derrière t'as Keldon Johnson qui passe à côté, Carter Bryant qui est jeune, Luke Kornet, c'est très compliqué dans l'ensemble sur ces playoffs. Harrison Barnes, il n'est pas lancé hier, parce que tu pourrais le tenter, je sais pas, mais oui, là t'as que 6 joueurs qui en plus font pas forcément leur. Enfin, qui font pas un très bon match hier contre 8 joueurs deep qui sont forts. Au final, t'as qu'un point d'écart, mais c'est là-dedans qu'on dit que franchement, à la pression visuelle, il y a plus 15 hier.
Tout à fait. Les Knicks mènent 2-0, donnent aussi le sentiment des deux côtés du terrain d'être meilleurs et d'être aussi un peu plus frais. C'est-à-dire que j'ai trouvé, je sais pas ce que t'en penses, que les Spurs, parfois, en plus des mauvaises décisions, avait l'air complètement carbomax, c'est-à-dire que tu sors d'une série en 7 contre le Thunder après en avoir lâché 6 face aux Wolves, hein, ce qui n'était pas rien, et puis les Blazers, ce n'était pas une colonie de vacances non plus. Alors que de l'autre côté, les Knicks ont très bien fait le boulot dans la conférence Est. Là-dessus, tu le vois aussi, le fait que même s'ils sont plus jeunes en soi au niveau des gambettes, les Spurs, tu sens quand même qu'il y a eu des moments où ils sont un peu carbo.
C'est sûr, enfin, ça se voit et c'est logique vu tout ce que tu dis. Évidemment qu'il y en a qui vont sortir l'écart entre les deux conférences et c'est un facteur c'est à prendre en compte. Après, ça peut pas être une excuse si t'as envie d'être champion NBA.
Tout à fait.
Oui, les Knicks, ils se sont rendus le parcours facile parce que les équipes étaient plus simples, mais parce qu'ils se sont rendus le parcours facile. Ils leur ont mis claque sur claque. Quoi, franchement, c'est le championnat du monde, c'est où faut se mettre dans les pommes en une tartine. Bah, là, ils ont envoyé salade de phalange sur salade de phalange.
Ouais.
Et ils se retrouvent là et être plus frais, bah, bravo à eux parce qu'ils ont fait le taf. Quoi.
Ils sont absolument énormes.
Et donc, tant mieux s'ils sont plus frais, ils ont fait ce qu'il fallait pour.
C'est
bravo.
Ça. Il y a un clair 2-0 pour les Knicks. Les Spurs font face tout simplement à l'impossible, c'est-à-dire aller au Madison Square Garden lundi soir. Donald Trump, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, sera présent dans les gradins. Donc, bref, je vous laisse en commentaire. Bref,
voilà. Allez Wemby, hein.
Ouais. Allez Champagny. Allez Victor.
Wemby va être déter.
Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'on va avoir une ambiance absolument incroyable et immanquable au Madison Square Garden lundi soir.
T'as vu les images de Spike Lee, il adore les rires.
Moi, je suis obligé de te poser la question, Robin, indépendamment d'un jeu concours qui a été mis en place. Et je vous la pose aussi. Est-ce que les Spurs vont rejouer devant leur public cette saison?
Oui. Ouais, c'est pas possible. Oui.
Tu penses qu'ils prennent le 3 ou le 4 plutôt?
C'est dur à répondre à cette question. Je sais pas. Allez, le 3 justement, Victor devant Trump, ça me ferait kiffer. On va pas faire géopolitique ici, mais ça me ferait kiffer. Allez, prends le 3, tu redonnes l'espoir, les Knicks qui rappellent. Et puis moi, au début de la série, j'avais 4-2, donc Knicks, donc je reste dessus. Mais ça prend le game 3. J'espère, il faut que ça retourne chez les Spurs. J'ai vu beaucoup de gens comparer la série à celle du Magic contre les Rockets.
95, tout à fait.
En termes d'expérience, j'ai l'impression que les Spurs sont une meilleure équipe que ce
Magic.
Ils
sont meilleurs que...
Ça va pas finir pareil, j'y crois pas. Ouais. Ouais. Voilà. Et toi?
Après, j'espère aussi. Après, il existe une réalité concrète, c'est que là, ces Knicks sont meilleurs que ces Spurs.
Oui.
Notamment là dans l'approche et dans la gestion des joueurs et de la durée du match. C'est-à-dire que les Knicks me donnent le sentiment que, en fait, ils me donnent le sentiment que même si les Spurs mènent de 18 points au Madison Square Garden, ils vont encore être là. Et ils vont encore se battre. Et t'as un mec qui va sortir de son chapeau. Et cette fois, en fait, il a fait j'ai pas fait jouer Clarkson du game 2, mais en fait, là, il va apporter 8 points. De manière absolument inattendue et inespérée. J'espère qu'il va y avoir game 3. Je suis plus frappé, moi, je t'avoue, par. En fait, on s'est pris des patates par ces Spurs-là de quels que soient les challenges, on va les remporter. Game 7, chez le champion en titre, pas de problème. Mais là, j'ai l'impression que autant les Spurs pouvaient faire des close-outs sur des mecs comme Shai Gilgeous-Alexander et compagnie et laisser Lugansdort ou Alex Caruso ouvert, autant là, tu te fais assassiner en fait si tu laisses certains mecs qui sont ouverts. Et ces Knicks-là sont dans un tel flow collectif que quoi ? Ils vont tirer à 12% à 3 points, je n'y crois pas une seule seconde.
Non. Non. Mais oui, les Knicks sont une meilleure équipe. Mais les Spurs ont le potentiel pour être la meilleure équipe même.
Donc, moi je dis,
c'est pas que les Knicks vont être moins bons, je pense que les Spurs vont être meilleurs sur au moins un match. Quoi.
Moi je dis aussi, il y en a un des deux qui va passer, rien que pour le jeu concours. Que je vous remets ici, là évidemment, hein, pour le magnifique troll. Vous foncez dans le premier lien en commentaire de cette vidéo ce week-end. Voilà, allez-y, puisque ce jeu se termine ce lundi. Vous foncez si vous voulez croire en de la science-fiction, tout simplement, c'est-à-dire vivre le Game 5 des finales NBA à San Antonio.
Ça va arriver.
Exactement, le vol pour San Antonio est prévu, l'hébergement à l'hôtel et deux places pour le Game 5 avec la personne de votre choix. C'est un jeu concours exceptionnel qu'on met en place, tellement exceptionnel que si ça se trouve, ça n'existe pas. Mais dans tous les cas, on sera là pour profiter de tout ça et vous continuer à vous proposer des jeux de fous. Rendez-vous lundi soir, sans faute, pour vivre la folie de New York, parce que là, là c'est incroyable. Oh là là, 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 2-0 les Knicks. On va suivre tout ça de très près. Tu seras évidemment devant le match.
Ouais. Ouais, ouais, ça, sans faute.
Moi aussi. On vous fait des très gros bisous. Dites-nous ce que vous pensez évidemment de ce début de série. Est-ce qu'on va être sur un sweep ou est-ce qu'on va retourner à San Antonio, hashtag le jeu concours. Et on vous retrouve très très vite sur votre chaîne YouTube préférée. À la prochaine, bon week-end. Ciao.